vous invite encore à la prière. Seigneur, nous avons besoin de l'éclairage de ton esprit pour comprendre ta parole, la recevoir de manière efficace. Oui Seigneur, viens à notre aide, viens à l'aide de notre intelligence, et que ce message, Seigneur, puisse nous être utile aujourd'hui, pour que nous puissions, Seigneur, être édifiés, que notre Église puisse être encouragée, et que ce soit, Seigneur, l'occasion pour les uns et les autres aussi de se remettre en question devant toi, d'avancer encore plus avec toi, de rechercher la sanctification aussi. Merci Seigneur. Parle-nous encore aujourd'hui et fais taire tout ce qui est en nous qui ne vient pas de toi, afin que nous n'entendions vraiment que ta voix, Seigneur. En ton nom Jésus. Amen. Bonjour à tous. Donc comme vous le voyez, nous allons entamer à partir de ce dimanche une série de prédications sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ça va nous amener, je crois bien, jusqu'au dimanche 11 décembre, ou je ne sais pas, en tout cas vers la mi-décembre. Voilà. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je vous salue. Vous sentiez bien accueillis dans cette église, notamment pour celles et ceux qui viennent visiter pour la première fois. L'Épître aux Éphésiens, elle fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité, c'est-à-dire des épîtres qui ont été écrites pendant que l'apôtre Paul était prisonnier. Il y a d'autres épîtres de la captivité qui sont Philippiens, Colossiens, et puis l'épître à Philémon notamment. Et selon des commentateurs bibliques, l'épître aux Éphésiens aurait été écrite vers les années 60 après Jésus-Christ. Pas 1960, hein, 60 après Jésus-Christ. Lors de la captivité de Paul à Rome, semble-t-il. Mais comme il a été emprisonné un peu à Césarée, un peu partout, entre guillemets, on ne sait pas trop, mais ce qu'on suppose, c'est que c'était à Rome. La ville d'Éphèse se trouvait dans l'actuelle Turquie. Aujourd'hui, de cette ville portuaire qui était très très florissante dans l'Antiquité, eh bien, je crois que c'est surtout des vestiges et des ruines qui restent pour celles et ceux qui ont peut-être voyagé dans le coin. Je vois qu'il y en a qui hochent les têtes là. Ouais. Et c'est l'apôtre Paul donc qui a jeté les premières bases de l'église d'Éphèse lors d'un de ses voyages missionnaires. Et semble-t-il, c'est Timothée, le fils spirituel de l'apôtre, qui a eu la tâche de consolider cette implantation. Et Timothée est peut-être devenu, semble-t-il, le principal responsable de l'église d'Éphèse. On peut voir ça dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3, où Paul demande vraiment de paître le troupeau de cette église. L'épître d'Éphésiens aux Éphésiens est qualifiée par certains commentateurs bibliques comme étant la reine des épîtres, ou le chef-d'œuvre des écrits de Paul. Alors c'est peut-être dû au fait que cette épître, nous allons le voir pendant quelques semaines, cette épître résume en fait à elle toute seule l'essentiel du message de l'Évangile. Et en effet, dans la première partie de l'épître, eh bien, on trouve un véritable exposé doctrinal, vraiment complet, de la foi chrétienne. Et les chapitres 1 à 3, justement, sont des chapitres, on va dire, à connotation beaucoup plus théologique. Et à partir du chapitre 4, c'est une partie un peu plus pratique, sous forme d'encouragement à vivre dans l'unité, vivre dans la lumière. Il fait un peu écho, je pense, au témoignage de Virginie tout à l'heure. Vivre dans la lumière, vivre dans l'obéissance, mais aussi sous forme de recommandations dans les rapports de vie, la vie familiale, la vie professionnelle, le rapport parents-enfants, au niveau de la sphère familiale, et des exhortations aussi à combattre les puissances spirituelles mauvaises avec des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble les 14 premiers versets du chapitre. Chapitre 1, donc, versets 1 à 14. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais d'abord poser une question à chacun d'entre nous présents ce matin. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Est-ce que c'est pour accomplir un service auquel nous sommes habitués tous les dimanches, un peu comme l'avait dit Jérémie en introduction ? Est-ce que c'est par devoir ? Est-ce que c'est pour jouir de la communion fraternelle, pour apprécier des moments entre frères et sœurs ? Est-ce pour faire des rencontres ? Ça peut arriver aussi. Mais alors, vous allez certainement répondre, ben non, c'est pour adorer Dieu. Oui, mais pourquoi alors ? Pourquoi adorons-nous Dieu ? Est-ce que nous savons les raisons profondes pour lesquelles nous sommes poussés à adorer Dieu ? Nous allons lire dans Éphésiens, donc chapitre 1, donc cette question « Pourquoi adorer Dieu ?» Après cette question « Pourquoi adorer Dieu ?», nous allons lire Éphésiens au chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue qui à Éphèse, ceux qui à Éphèse, pardon, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et irréprochables, sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, excusez-moi, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de l'Esprit Saint, de Dieu, pardon, l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu, du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Voilà notre texte d'aujourd'hui. Alors, ce texte que nous avons lu est à lui seul une véritable prière de louange et d'adoration. Et c'est devenu d'ailleurs un hymne, carrément un hymne chrétien qui a été lu, chanté peut-être aussi au premier siècle. C'est un hymne donc écrit par Paul sous l'inspiration de Dieu. Et on sent dans ce passage que Paul est touché, il est ému en écrivant ces lignes, il est ému par les bénédictions dont il est l'objet. Et Paul ne loue pas son Seigneur parce que, bon, ben, il faut bien le louer, il ne loue pas son Seigneur par obéissance servile à un ordre. Il loue le Seigneur parce qu'il se sent poussé à le faire, conscient des privilèges qui sont les siens et qui sont aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont unis à Christ. Et cette union à Christ, d'ailleurs, est rappelée plusieurs fois par Paul. Quand vous voyez dans ce texte « en lui, en lui, en lui », ça veut dire « en vertu de notre union avec Christ ». Parce qu'une fois que quelqu'un a donné sa vie à Christ, il est uni à Christ. C'est Christ qui vit en lui. Il appartient totalement à Jésus. Et sa vocation, c'est de lui ressembler, d'arriver à sa stature parfaite. Et c'est en vertu de cette union avec Christ que le chrétien bénéficie de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Et Paul précise bien dans le monde céleste, c'est une façon de dire que ce qui est important, c'est d'avoir notre héritage céleste. Une façon de dire que, voilà, il faut regarder plus loin. Ce n'est pas un appel à mépriser les bénédictions matérielles que nous pourrions avoir par la grâce de Dieu. Mais c'est un rappel que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est ce qui nous attend au-delà de ce monde visible, au-delà de ce monde matériel. Alors, je vous propose de voir ces bénédictions, justement, qui ont poussé Paul, qui l'ont motivé à écrire ce cri de louange en réponse à l'œuvre de Dieu. Et je vous propose quatre raisons, quatre grandes réalités qui sont autant de raisons d'avoir une vie d'adoration. Voyons ça ensemble. Première raison, c'est que Dieu nous a élus et adoptés. Bien avant de poser la fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter. Alors, c'est un passage qui soulève un thème important, un thème biblique, qui est le thème de l'élection. Élection divine. C'est-à-dire une doctrine selon laquelle Dieu, dans un plan qu'il a conçu de toute éternité, a choisi des hommes et des femmes pour être sauvés. C'est une doctrine qui peut susciter pas mal d'interrogations. Comment se fait-il que moi, mamie, j'ai été élu pour appartenir à Dieu avant même que le monde ne fut créé, n'est-ce pas au contraire moi qui ai choisi Dieu? N'est-ce pas au contraire moi qui ai pris la décision d'inviter Dieu à diriger ma vie? J'ai parfois du mal à saisir cette réalité. Alors, ce matin, je n'ai pas la prétention de faire un exposé doctrinal sur cette question de l'élection divine. Il y a tellement d'ouvrages qui traitent de cette question. Vous avez l'institution chrétienne de Jean Calvin, vous avez des bouquins de théologie systématique de Wayne Grudem, ou alors le précis de doctrine de Jules Massé-Nicole, ou beaucoup d'autres ouvrages que vous pouvez trouver assez facilement à la Maison de la Bible. Je n'ai pas la prétention de faire cet exposé-là, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'une doctrine qui n'a pas été inventée par les hommes, qui n'a pas été avancée par des hommes, mais une doctrine biblique, une doctrine qui est suggérée par l'ensemble de la Bible, l'ensemble des écrits. Et on voit en effet que notre Dieu, c'est un Dieu qui, à un moment donné, il fait des choix. Il choisit Abraham, qui est un païen polythéiste, sans que celui-ci ne l'ait demandé. À un moment donné, il choisit aussi Jacob et non Ésaü, avant même la naissance de ses deux frères. Et Dieu a choisi le peuple d'Israël entre plusieurs peuples, alors même qu'il le qualifie, ce peuple d'Israël, comme étant un peuple avec un coured, le moindre des peuples, dit-il. Et les chrétiens, Dieu n'avait aucune raison de les choisir, les chrétiens. Mais il l'a fait. Il l'a fait non pas à cause de leur mérite, non pas à cause de leur qualité et de leurs œuvres, mais par amour, par pure grâce. Il faut se souvenir qu'à l'origine, nous sommes tous condamnés. Condamnés par Dieu à la mort éternelle. Parce qu'à cause du péché d'un seul, dit la parole, La mort a atteint toute l'humanité. C'est dans Romains chapitre 5, verset 12. Et Dieu aurait pu laisser l'homme dans cet état. Mais il a offert la possibilité à l'homme d'échapper à cette mort éternelle en usant de grâce et en choisissant dans sa souveraineté des personnes qu'il a voulu sauver. Et le but de cette élection, c'est que les croyants soient saints et sans reproche devant Dieu. Saints et sans reproche. Est-ce que quelqu'un se sent ici saint et sans reproche ? Non. En fait, les chrétiens ont déjà ce statut juridique de saint. Quand Paul s'adresse aux chrétiens de diverses églises, il s'adresse, il parle de saints, aux saints qui sont à telle église, Corinthiens, etc. Mais l'effectivité de notre sainteté ne sera obtenue qu'au terme de la vie sur cette terre. Après avoir accompli notre course avec le soutien de l'Esprit-Saint, nous avons été choisis pour poursuivre la sainteté, et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui accomplira cette sanctification pour nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. Mais le texte qu'on vient de lire nous apprend aussi que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde afin de nous adopter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il avait déjà dans son plan l'idée d'adopter. Moi, je trouve ça merveilleux. Il ne s'agit pas simplement d'une adoption par écrit, administrative, mais un acte d'amour, un véritable acte d'amour qui nous permet d'accéder à tous les privilèges d'un enfant légitime, bien qu'adopté. C'est une adoption qui nous permet d'avoir une relation intime avec notre Créateur, qui nous permet de l'appeler Abba, ce qui veut dire Père. Romains chapitre 8, verset 13. C'est une adoption qui nous garantit les promesses de recevoir le monde en héritage, de participer au règne de la création avec Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la Bible. Alors on a du mal à imaginer comment sera ce temps où nous allons régner avec Christ sur toute la création. C'est une adoption qui nous fait non seulement les bien-aimés, les enfants bien-aimés de notre Père, mais aussi des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Rendons-nous compte, nous qui sommes chrétiens, que nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant notre grand frère, celui qui a la prééminence, dit la parole. Et Paul affirme avec force et conviction que tout ça, donc notre élection, notre adoption, a été fait afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Nous avons été choisis à adopter, c'est un fait. C'est une grâce. Et en réponse à cela, une seule chose à faire, chers amis, le louer, l'adorer. Donc c'est la première raison d'être un peuple d'adorateurs, c'est notre élection, notre adoption par Dieu. Ce sont des privilèges, peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte tous les jours, mais que nous devons vraiment être conscients. Deuxième raison, c'est que Dieu nous a délivrés et pardonnés en Christ. En Christ, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes, au verset 7. Alors, on a l'habitude de dire que le salut est gratuit. C'est une réalité biblique, effectivement. La parole dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, au verset 23. Mais, en arrière-plan, il faut se rendre compte de ce que cela a coûté à Dieu. Pour que nous échappions à la mort éternelle, qu'est-ce que cela a coûté à Dieu ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? Son Fils. Ça a coûté la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Et dans notre texte, Paul affirme que nous avons été délivrés. Et dans d'autres versions de la Bible, les questions de rédemption. Nous avons obtenu la rédemption. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cette version-là. Mais, en fait, dans la pensée biblique, quand on parle de rédemption, il s'agit d'une libération obtenue suite à un rachat. Dieu nous a donc rachetés. Il nous a rachetés afin que nous changions de propriétaire. Avant, nous appartenions au diable. Nous avions pour père le diable, dit la parole dans Jean chapitre 8, verset 44. Mais Dieu nous a rachetés, et nous a rachetés avec une rançon qui s'est élevée à un prix inimaginable, le prix du sang de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une libération sous caution, sous condition, mais c'est une libération qui permet de passer définitivement des griffes du diable au bras de notre nouveau propriétaire, qui est Dieu. Et Dieu nous a non seulement arrachés au pouvoir des ténèbres, mais la parole nous dit aussi que, à la croix, Jésus a triomphé des puissances du mal, qu'il a vaincu le diable, hein, dans Colossiens chapitre 3, versets 14 à 15. Notre ennemi est vaincu, et c'est une libération qui a pour conséquence immédiate le pardon de notre péché, notre justification. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Donc, non seulement nous sommes rachetés, non seulement notre ennemi est vaincu, mais en plus, notre casier judiciaire spirituel devient complètement vierge. Rendez-vous compte. Imaginons une scène. Un homme est incarcéré à cause d'un meurtre. Il est dans son cachot en attente de son procès. Il sait qu'il risque la mort. Et au tribunal, pas de surprise, la sentence tombe. Inéluctable, la peine capitale. Et à ce moment, le juge, lui-même ému de compassion, face à la détresse du prévenu, le déclare juste et innocent, et il l'acquitte. Qui plus est, en effaçant toutes les charges de son casier judiciaire. Imaginez la réaction du prévenu d'abord. Certainement de l'incrédulité, de la joie, un peu mêlée, tout ça, n'est-ce pas? Une sensation de vivre un rêve. Et peut-être qu'il ira embrasser tous les siens qui sont là dans la salle, il ira peut-être embrasser le juge, il dira peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, il va essayer d'être un bon citoyen, etc. Mais en revanche, tout le monde ne comprendra pas cette réaction, cette décision en tout cas. Plusieurs crieront au scandale, à la folie. Cela provoquera probablement un sentiment général d'indignation au niveau de l'opinion publique. Le juge risquera même d'être poursuivi et condamné pour faute professionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le juge annonce par la suite qu'il va prendre la place du prévenu et payer sa dette envers la société à sa place, simplement par amour pour lui, quelle serait la réaction des uns et des autres? Quelle serait la réaction du prévenu, de l'assistance, hein? Je vous laisse un peu imaginer. En tout cas, pour le prévenu, ce serait autre chose que de la joie ou de l'excitation d'être libéré. Là, il y aura quelque chose de beaucoup plus profond, de se dire « ce juge-là, c'est lui qui va prendre ma place à l'échafaud. » Il y aurait quelque part une reconnaissance éternelle, un respect profond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mars dernier, l'opinion publique française a été très émue, et même l'opinion publique mondiale, suite à un acte héroïque d'un gendarme qui s'appelait Arnaud Beltrame. Ce gendarme donc, qui a pris la place d'une jeune femme qui était prise en otage dans un supermarché et qui s'est finalement sacrifiée pour elle. L'opinion a été très très touchée, très émue. Et la jeune femme avait ensuite d'ailleurs déclaré, cette jeune femme qui avait été libérée à la place donc, de ce gendarme, elle avait dit « il s'est fait tuer pour que moi je vive, je ne comprends pas ça ». Et parmi les nombreuses réactions, il y en a une qui m'a frappé. Réaction de quelqu'un de célèbre, je n'ai pas noté son nom, il a dit « Il faudrait donner à une avenue trépassante au cœur de Paris le nom de ce héros pour que notre mémoire reste en éveil quand l'émotion du moment sera retombée. » Chers amis, qu'est-ce que suscite en nous le sacrifice de Jésus qui nous a libérés des chaînes de nos péchés et qui nous a donné la vie éternelle? Est-ce simplement de l'émotion? L'émotion retombe très rapidement. Est-ce simplement de l'admiration? Ça aussi, ça peut durer un temps. Ou bien cela nous pousse-t-il à une attitude plus profonde, une attitude de reconnaissance éternelle? Là encore, nous n'avons qu'à nous incliner et adorer Dieu avec humilité, avec reconnaissance. C'est nous qui méritions la mort. Il s'est sacrifié pour nous, à notre place. Troisième point, Dieu nous a fait connaître son plan. Il nous a donné pleine sagesse et intelligence pour nous faire connaître le secret de son plan. Le secret, ou le mystère, suivant les versions, dont parle l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui était autrefois voilé aux yeux des incrédules, aux yeux des non-croyants, donc, et qui a été ensuite révélé progressivement à celles et ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et le mystère dont il est question dans ce texte, c'est de réunir tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, sous le gouvernement du Christ. Réunir tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre sous le gouvernement du Christ. Qu'est-ce que veut dire cela ? Et quand l'apôtre Paul parle de réunir tout ce qui est au ciel et sur la terre, en fait, il raisonne sur deux niveaux. Il fait d'abord allusion à l'univers entier, à la création. Une création qui est une création qui soupire, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Et en y regardant de plus près, malheureusement, les actualités montrent effectivement que la création soupire. Elle soupire, elle souffre à cause de l'action de l'homme. L'homme qui a été initialement chargé par Dieu pour gérer la création avec sagesse, avoir une bonne gestion, hein, dans Genèse, dans les premiers chapitres de Genèse, eh bien, l'homme, forcé de le constater, l'a plutôt martyrisé. Le réchauffement climatique dont on parle tant, semble-t-il, c'est causé par l'homme, l'action humaine. L'extinction progressive de plusieurs espèces d'animaux terrestres ou marins, c'est une réalité, semble-t-il, aussi causée par l'homme. Par nécessité économique, dirons-nous, mais par l'homme quand même. Et que dire de la pollution quasi-générale, non seulement de la Terre, mais aussi de l'espace, hein, paraît-il qu'il y a des millions et des millions de débris dans l'orbite terrestre. Mais la parole affirme qu'un jour, tout ce qui se trouve dans l'univers sera réuni sous l'autorité du Christ et retrouvera, il y aura une idée d'harmonie parfaite qui sera retrouvée, une régénération de l'univers. La création sera affranchie, libérée. Mais, dans un deuxième plan, il veut aussi parler de tous les chrétiens, tous les rachetés. Et vous savez qu'à l'époque de Paul, il y avait des chrétiens d'origine, d'arrière-plan différent. Et Paul, en parlant de ce plan de réunir aussi tout ce qui est sur la terre, il pensait certainement aux chrétiens d'origine juive et païenne qui avaient encore du mal à vivre ensemble leur foi chrétienne à cause de leur culture différente. Et d'ailleurs, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, Paul va développer le thème de la réconciliation des juifs et des non-juifs. Mais en tout cas, le jour du retour du Seigneur, les rachetés de tout arrière-plan loueront éternellement Dieu ensemble et seront réunis. Là, on pourra vraiment parler d'église universelle. Toutes les petites guéguerres évangéliques à propos de tel ou tel point doctrinal, millénium ou autre chose, tout ça, ça disparaîtra. Les vrais chrétiens, les rachetés, seront tous d'accord et loueront tous le Seigneur dans un même esprit. Amen. Donc le plan ultime de Dieu, c'est de réunir l'univers et l'Église sous la seule autorité de Christ. Donc la création entière, sera sous le gouvernement unique de Christ. En tout cas, le fait que Dieu nous ait révélé ce plan merveilleux constitue aussi une raison pour célébrer sa gloire. Parce que c'est un avenir glorieux qui attend cette terre, toute la création. Et c'est une raison de dire merci Seigneur, merci pour cela. Merci parce que la pollution ne sera... Il n'y aura plus de pollution sur cette terre. Merci. Il n'y aura plus de petites guéguerres entre chrétiens. Merci Seigneur. Quatrième et dernière raison, c'est que Dieu nous a scellés par son Saint-Esprit. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne sur terre, Dieu avait promis, par la bouche de ses prophètes, notamment par des prophètes comme Joël, Ésaïe ou Ézéchiel, il a promis d'accorder le don de son Esprit. Il avait dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs, je vous purifierai de toute souillure, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 36. Et quand Jésus est venu, pendant son ministère terrestre, il a aussi confirmé cette promesse de l'envoi du Saint-Esprit. D'abord à ses disciples, pour équiper ses disciples dans leur ministère d'apôtre, mais ensuite aussi à toutes celles et ceux qui croiront en Jésus grâce à la prédication des apôtres. Pour que ceux qui croient en Jésus aient un cœur complètement purifié, transformé par le Saint-Esprit et aspirant à une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Un des rôles majeurs du Saint-Esprit, chers amis, c'est de nous transformer progressivement pour que l'image de Dieu qui était en nous, on a été créé à l'image de Dieu quand même à l'origine, pour que cette image qui a été déformée, qui a été corrompue par le péché, pour que cette image soit réformée, soit restaurée. Et cette transformation qu'opère déjà le Saint-Esprit dans notre vie terrestre constitue en fait un avant-goût des prémices de la métamorphose complète que nous connaîtrons dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de péché, plus d'influence du mal, plus de tentation, plus de maladie, plus de tristesse, plus de larmes, plus de deuil. Nous aurons un corps glorifié, un corps sans défaut. À un certain âge, notre corps a tellement de défauts. On n'aura plus mal au dos tous les matins en se levant, hein, c'est pour certains. Moi en tout cas. Nous serons semblables à Jésus-Christ. Semblables sur le plan moral. Si nous avons effectivement entendu et cru au message de l'Évangile, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et là, Paul, dans ce passage, il utilise une image frappante pour qualifier cette réalité merveilleuse. Il utilise l'image du sceau. Il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir, verset 13. À l'époque de l'apôtre Paul, les propriétaires marquaient de leur sceau tout ce qui leur appartenait. Bétail, hein, parfois marqué au fer rouge, hein, les esclaves aussi marqués au fer rouge. Hein. Le sceau, en fait, évoquait une marque de propriété, une marque d'authenticité. Et une fois le sceau apposé, impossible de l'enlever. La marque du sceau est définitive. Un peu comme des tatouages, mais en plus violent. Le fait que Dieu nous a scellés par son esprit veut dire que nous avons cette marque indélébile de Dieu sur nous. Une marque imprimée, non pas extérieurement, hein, vous êtes d'accord, mais dans notre cœur, une marque d'appartenance, une marque d'authenticité. Et la parole dit même que c'est une marque de sécurité éternelle. Et par le scellement de son esprit, Dieu nous donne déjà aussi un avant-goût des bénédictions à venir, de ce qui nous attend quand nous serons pleinement en présence de notre Seigneur. C'est un peu comme un billet d'avion que nous recevons 6 mois ou 1 an à l'avance et qui nous fait languir, nous rend impatients jusqu'à la date de notre départ, à la destination de notre pays de rêve. Alors on le regarde tout le temps, on met sur le bureau là, ah, et puis on commence à mettre le compte à rebours. Hein. C'est un peu comme ça. Et ce sont ces perspectives, la perspective de l'héritage du royaume céleste, la perspective de la délivrance finale de tout mal, ce sont ces perspectives-là qui motivent Paul à bénir Dieu de tout son cœur. Parce que le plan de Dieu, c'est d'être glorifié par la création d'un peuple qui lui appartient. Ainsi, dit la parole, tout aboutit à célébrer sa gloire. Tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors j'arrive à la fin de ce message. Dans ce texte d'Éphésiens 1, nous trouvons l'essentiel de ce que nous croyons. L'essentiel de ce qui fait notre espérance, bref, j'allais dire tout le plan de Dieu pour son peuple, à savoir d'abord l'élection, l'adoption, être élu, adopté avant la fondation du monde, être délivré, pardonné de nos péchés, avoir reçu le privilège de connaître les secrets de son plan, ça c'est un privilège aussi, avoir été marqué par le sceau de son Saint-Esprit, ce sont autant de raisons, de réalités merveilleuses qui nous poussent à exprimer tout le long de notre vie terrestre notre pleine reconnaissance, avec une attitude continuelle d'adoration. Pas seulement le dimanche matin, quand on vient au culte, mais de faire de l'adoration vraiment notre style de vie, notre raison de vivre. Parce que l'adoration, en fait, c'est une attitude de tous les jours. Peut-être que certains, tous les jours, lèveront les mains, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est surtout l'adoration qui vient du cœur. Quel est l'état de notre cœur face à toutes ces bénédictions dont nous sommes l'objet? Il y a ce passage qui dit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà pour les raisons pour lesquelles nous avons été appelés par Dieu. Les raisons pour lesquelles nous avons été libérés pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Alors si aujourd'hui, dans cette salle, certains n'ont pas encore cette assurance de la délivrance et du pardon des péchés, si certains n'ont pas encore cette assurance de la vie éternelle, eh bien Dieu, dans sa grâce, chers amis, laisse encore le temps pour la repentance. Nous sommes encore dans des temps de grâce. Dieu laisse encore le temps pour la repentance, c'est-à-dire qu'il laisse le temps pour que nous puissions reconnaître notre faillite morale devant Dieu. Il nous laisse le temps pour confesser nos fautes. Et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, si on laisse le Saint-Esprit nous montrer ce qui ne va pas, eh bien nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie. Et si aujourd'hui dans cette salle, certains n'ont pas encore cette assurance du pardon, eh bien, il est encore temps d'accepter tout simplement que Jésus pardonne et prenne la direction de nos vies. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit la parole de Dieu, et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc aujourd'hui, c'est encore la volonté de Dieu d'appeler toutes celles et tous ceux qui sont encore loin de lui à venir s'abandonner entre ses bras, afin de faire partie de son peuple et de bénéficier de toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons vues. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Parfois nous avons tendance à l'oublier. Et pourtant Seigneur, le fait de nous avoir délivrés, nous avoir arrachés aux mains de l'ennemi, le fait d'avoir pris notre place pour être punis à cause de nos péchés, le fait d'avoir été scellés de l'Esprit Saint, le fait d'avoir été choisi, adopté par grâce et par amour, tout cela, Seigneur, voilà, nous voulons nous les remémorer. Et nous voulons, Seigneur, nous en souvenir tous les jours de notre vie, afin d'avoir une attitude d'adoration permanente, continuelle, vis-à-vis de ta Seigneurie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir une vie d'obéissance aussi. Aide-nous à avoir des yeux toujours fixés sur toi. Et je te prie aussi, Seigneur, pour celles et ceux qui ont toujours hésité jusqu'ici, qui sont peut-être là ce matin, mais qui n'ont pas encore vraiment accepté l'œuvre de Christ dans leur vie, qui n'ont pas encore approprié pour eux-mêmes cette œuvre merveilleuse. Seigneur, que tu touches les cœurs aujourd'hui même, que ton Esprit Saint agisse puissamment, afin que plusieurs viennent à toi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.